samedi, de 20h à 21h, les papous font leur révolution russe. Bonsoir. Au menu, une histoire de samedi soir à la Audiard par Lucas Fournier.
Allez, j'ai dit chouchène pour tout le monde et on a chanté Kalinka. Et à la fin, la patronne, une sorte de Maya Plisetskaya Bigouden, a gueulé. Ouais, les Ruskov, on n'est pas au Bolchoï. Votre révolution, vous me la faites dehors.
La correspondance retrouvée de Lénine, Jacques Jouet, avec deux grands de la mode à propos de sa casquette. Une erreur de date, peut-être. Joséphine Clémentine Mélois écrit à son prof d'histoire. Et puis, la révolution dans tous ses sens. La rencontre entre Fernandelov et Ninotchka. Et le DLA, forcément révolutionnaire, pour trois experts, dont Patrick Beignet.
Ma première impression, c'est de penser que c'est rigolo.
Ah bon, ah.
Oui, enfin pour ne pas avoir d'inquiétude sur la santé mentale de Jacques,
oui.
Je préfère penser qu'il y a une dimension parodique dans ce texte. Ça, c'est irrespirable.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et en podcast pendant un an pour écouter ce numéro des papous quand ça vous chante. Merci de votre douce fidélité. Et bienvenue à ceux qui nous découvrent en ce samedi soir. Vous pouvez aussi rejoindre la bande des auditeurs sur notre page Facebook. Allez, c'est parti.
Oh bien.
Chut, les enfants, on écoute Lucas. Après les histoires de samedi soir façon Fedeau et Jules Verne, place à un nouveau samedi soir et c'est donc Lucas Fournier qui pastiche.
Oui, c'est la Révolution russe, en hommage à Michel Audiard. Je suis un type dans le genre de Cervantes. J'aime beaucoup la paella. Alors, samedi soir, j'ai dit à Raoul, si on allait croûter ce pingouin au restaurant Picador, boulevard des Batignolles. Parce qu'au Picador, chorizo sur le gâteau, ils ont un riora de derrière les fagots. Mais voilà, Raoul, c'est un obstiné. Raoul, il est longjumélois. Et à longjumeau, on a les idées de tout le monde. Raoul, à lui seul, c'est une indivision des premiers venus et des insignifiants. Il a dit non. J'ai entendu aux informations que c'est ce soir le centenaire de la Révolution russe, alors allons plutôt becter un bœuf stroganoff, surtout qu'on n'est pas loin de la rue de Moscou. J'ai pensé, comme Mao Tse-Tung, que la Révolution n'était pas un dîner de gala, mais j'ai compris, vu l'état des relations russo-chinoises et vu la tronche de Raoul, que l'heure n'était pas au symposium. Va pour la rue de Moscou. On cherche un resto moscovite ? Nada. Le désert des steaks tartares. Il y avait un resto indien, un italien et un coréen. Même pas du Nord, le coréen. Car Erdankos avait raison, c'est l'Empire éclaté et la fin de l'URSS. On se demande ce que fait le Kremlin. Bon, mais on n'allait pas se laisser vaincre par la coriacité du destin, non. On avise une petite crêperie au marin de Brest. J'ai dit à Raoul, Brest, Brest-Litovsk, c'est la victoire de la Révolution. Et là, son visage d'une rare équanimité s'est illuminé d'un éclair de stupidité et on est rentré. Dedans, c'était festival de Bignou et Graillon, plein de chevelus en pull jacquard avec des tronches à signer des pétitions à Notre-Dame-des-Landes. On s'est assis dans un coin et on a commandé deux crêpes, des baltiques, saumon mayonnaise en l'honneur de l'insurrection de la flotte russe. Et on a attaqué au chouchin la vodka armoricaine. Ah, la révolution russe ! Et là, un type en marinière que je ne connaissais ni des lèvres ni des dents m'a fait « Objection, votre honneur, la révolution d'octobre, elle s'est passée en novembre. Le 25 octobre, c'est dans le Julien, mais en vrai, c'est le 7 novembre grégorien. » Le grégorien, ça me connaît. J'ai été enfant de cœur. J'ai été enfant de cœur et militant communiste. C'est dire si j'en ai entendu des conneries, mais là. Alors je me tourne vers le Michel Strogoff de l'Andivision et j'y fais sans blague. Alors ça veut dire que le 14 juillet devrait tomber un 15 août. Ça va pas simplifier l'existence à Bison Futé, ça. Retourne dans ton Kolkhoz qui me fait le Alain Decaux armoricain. Kolkhoz, c'est tout ce que tu sais faire, j'y réponds. On s'est chicoré gentiment. Pendant le colloque, Raoul continuait à s'arsouiller au chouchan. On progressait résolument dans l'invective, en oubliant la litote, quand soudain un papy, assis au comptoir, dans l'inaltérable sérénité du soir de sa vie, a levé son nez de sa crêpe au Nutella et de sa bolée de cidre, et s'est mis à gueuler « Sottilité, Taïa ! Sottilité, Taïa !» On s'est tous regardés, moi, Raoul, le breton révisionniste, j'ai dit « Je passe, j'ai fait latin grec. » Pareil, il a fait le breton. Et là, mon Raoul, il nous lâche tout à trac. « Le pépère, il vous dit, dans la langue de Tolstoï, le centenaire, c'est moi. » Ce con de Raoul, il avait connu une petite allonge du mot, Lulu Lakoula, qu'on l'appelait, qui avait été champouineuse au Bolchoï et qui lui avait appris les rudiments. Le vieux, il a expliqué qu'il avait 100 ans, il a même montré une photo de lui bébé. C'est lui qui était dans le berceau qui descend l'escalier du film des Genshine. Ah franchement, j'aurais pas reconnu. Hein. Surtout que c'était à Odessa en 1905, cette histoire. Le vieux s'était gouré, il n'avait pas 100 ans, mais au moins 115. En même temps, à son âge. Allez, j'ai dit Chouchen pour tout le monde et on a chanté Kalinka. Et à la fin, la patronne, une sorte de Maya Plisseskaya Bigouden, a gueulé « Ouais, les Ruskov, on n'est pas au Bolchoï, votre révolution, vous me la faites dehors !» Et elle a accompli la prédiction churchillienne, elle a baissé le rideau de fer sur son magasin, sur le quartier de l'Europe et sur ma tête. Total 20 points de suture. Alors vous savez ce que j'ai décidé ?
Non.
J'arrête le Chouchen, c'est ma résolution d'octobre.
Des papous dans la tête, numéro spécial anniversaire de la Révolution russe sur France Culture. Et tout parlera de cette époque dans l'émission, mais à notre façon, imaginative, décalée, avec de drôles de jeux de rôle pour tous. Ainsi, Jacques Jouet, Lucas Fournier et Jean-Bernard Pouy vont se retrouver dans des pots très célèbre, pour un échange de lettres. Et pour lancer l'échange, j'ai simplement demandé à Jacques Jouet d'imaginer une situation qui obligerait un personnage important de la Révolution russe à écrire à un certain intermédiaire, ce sera Lucas Fournier, à propos d'une demande qu'il n'ose faire un troisième larron, rôle endossé par Jean-Bernard Pouy. À partir de cette situation, tout était à imaginer. Jacques Jouet, on peut savoir qui vous êtes.
Je suis Lénine.
Ah ben voilà, je le savais que vous aviez existé. Et alors Lénine, il a un problème ? Enfin, il en a sûrement beaucoup d'ailleurs.
Il y a quelques problèmes, mais voilà, c'est une...
Il se demande que faire.
Savez, dans sa journée, il écrit peut-être 72 lettres, et ouais. C'est une de ses lettres.
D'accord, et là précisément, il écrit...
Il écrit à Pierre Berger.
Ah bon ?
La lettre datée de Petrograd, le 17 mai 1917.
Oui.
Cher monsieur Berger, en attendant de pouvoir à coup sûr vous nommer camarade, puisque vous n'êtes certainement pas sans ignorer que je suis de retour dans mon pays en effervescence après un voyage en train, je dois le dire assez plombant, permettez-moi de vous l'apprendre. Je suis à Petrograd et je suis très occupé. Il n'est pas simple de convaincre jusqu'à mes proches amis de la radicalité de mes thèses. Je m'y efforce, croyez-le bien. J'enchaîne également meeting sur meeting, l'usine à l'ouvrier, la terre aux paysans, ce qui est une activité harassante. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, ce n'est pas tant le mécène que j'entends solliciter, encore qu'une révolution ait besoin de fonds, sachez-le, c'est dit, je n'y reviendrai pas. Mais préférablement, l'homme de la mode et qui, sur ce plan-là, sait si bien s'entourer. Monsieur Berger, j'ai besoin de me glisser sous votre houlette, ou plutôt sous celle de votre protégé, monsieur Laurent, auquel vous me permettrez d'ôter le titre de saint, puisque nous, bolcheviques, luttons avec courage contre toutes les formes de superstition et jusque dans l'onomastique. Au fait, me direz-vous, eh bien, m'y voici. Je me suis rendu compte que ma silhouette dans les meetings n'était pas suffisamment frappante aux yeux du camarade lambda ou du compagnon de route et sympathisant. Trotsky a ses petites lunettes, Kerensky a ses lèvres en cul de poule, Staline sa moustache, moi je n'ai rien qu'une barbiche des plus banales et j'ai le crâne qui se dégarnit dangereusement. Pas terrible.
Non.
C'est encore plus terrible avec la tchapka que Zinoviev et Kamenev m'ont offert solennellement à mon arrivée à Petrograd. Sous elle, je ressemble plus à un Kouglov qu'à un futur président du Conseil des commissaires du peuple de la future Union soviétique. Oserais-je vous prier de vous entremettre auprès de M. Laurent, au fin qu'il me dessine une casquette. Je veux dire une casquette moderne, sans être futuriste, reconnaissable comme telle, sans être passéiste. Je la porterai, je m'y engage, dans toutes les circonstances où je jouerai un rôle de premier plan dans les années qui viennent. Meeting, réunion de conseil, dépôt de gerbes, réception d'ambassadeurs, rencontres avec des homologues, etc., etc. Il faudra que cette casquette, je puisse la relever d'un seul doigt pour prendre un air coquin et laisser entendre à tel ou tel suppôt de la grande bourgeoisie capitaliste au pouvoir à l'Ouest qu'il est en train d'essayer de me rouler dans la farine ou quoi. Il faudra que je puisse aussi la cogner sur mon genou de colère plus ou moins feinte et qu'elle dégage alors un nuage de poussière de charbon, exactement comme si j'étais un mineur de fond remonté au jour pour prendre le pouvoir aux côtés des soviets. Cette casquette, monsieur Berger, il me la faut de belle taille, à la mesure des attentes des masses populaires, ouvrières et paysannes. Je la veux nettement plus large que mon tour de tête authentique, qui n'est que de 48,5 cm. Je ne sais pas trop de quelle façon vous marquez les tailles, L, XL, XXL, moi je me verrais bien avec une YSL qui se verrait de loin dans les manifestations. Qu'en pensez-vous, monsieur Berger ?
Est-ce que M. Laurent sera sensible à ma commande, que je n'ose lui faire directement, et que je ne lui ferai pas l'injure de lui payer en roubles, mais en titre de gloire pour sa maison? Il y va de la victoire du prolétariat. Bien à vous, Monsieur Berger, sachez que j'attends avec fièvre la réponse de vous à la bergère, je dirais, si je ne craignais de vous heurter par un si piètre calembour sur votre nom fameux. Et c'est signé Lénine.
C'est une lettre magnifique, puis il y a une vraie demande, hein. Il y a de l'urgence en plus. Et si je si je comprends bien, Pierre Berger, c'est vous, Lucas Fournier ?
C'est moi.
Et Yves, sans le saint, mais Laurent, ce sera Jean-Bernard Pouy.
Presque. Presque.
Je ne l'ai jamais imaginé comme ça.
Non. Moi non plus.
Ils ont les mêmes lunettes, hein, quand même.
Ouais. Alors, comment il ressent cette lettre ? Il doit être un peu étonné quand même, Pierre Berger, non ?
Il est satisfait.
Il est content de lui.
Il est très content, et donc il écrit à Yves Saint-Laurent.
Oui, il aurait pu lui téléphoner, mais c'est mieux qu'il
ne trace écrite. Non, il a obligé de lui écrire. Là. Marrakech, le 17 mai 1962.
Ah oui, il y a un certain temps qui s'est écoulé. Ouais.
Bonjour Paris. À l'ombre des jacarandas en fleurs et dans les effluves du thé vert au jasmin, je t'écris depuis cette petite table dont la marqueterie en cèdre de l'Atlas figure ton portrait tracé par Bernard B. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour une nouvelle aventure. J'ai une importante affaire en vue. Un courrier m'est arrivé ce matin de la Russie tsariste. La lettre a tardé, il y a eu successivement une révolution, une invasion, une guerre, un rideau de fer et les vicissitudes charmantes de la poste marocaine. Un certain Lénine nous propose de créer un modèle de casquette révolutionnaire bolchévique. Autrefois, les révolutionnaires voulaient couper les têtes, aujourd'hui, ils les veulent couvrir, soit. Je serais tenté de dire non, mais ce Lénine est un homme de gauche et nous lui devons cette solidarité de classe, malgré ce que cela nous coûtera. Voici comment je vois la chose. Nous lançons le modèle Lénine, comme demandé, assorti d'une clause d'extension à l'armée soviétique dans son ensemble. Soit 9 millions de casquettes, hey, auxquelles nous rajoutons les forces du pacte de Varsovie, coiffées de la même solidarité prolétarienne, ce qui nous conduit à 15 millions de modèles. Ça m'étonnerait que les forces de l'OTAN ne réagissent pas et ne nous commandent pas à leur tour une casquette anti-Lénine en représailles. On monte à 30 millions. Si tu ajoutes les trotskistes d'Amérique du Sud, entre Trotsky et Lénine, c'est juste une question de galon, hein. On peut atteindre les 50 millions. Je fais prévenir les Chinois de mon marché avec les Russes et je ne doute pas qu'ils voudront aussi participer à la course à l'armement. Et là, nous pouvons signer pour 500 millions de plus. Voilà mon garçon, tu as de l'étoffe des héros de la Révolution, bien sûr, et tu as du pain sur la planche. Que 100 millions de casquettes s'épanouissent. Tu n'as qu'un mot à dire à ce Lénine, c'est « da ». Et tu enclencheras la plus formidable escalade militaro-vestimentaire de l'histoire. Écris-lui vite. En attendant, ménage tes montures. Je t'embrasse, Pierre.
On comprend comment il a fait fortune, Pierre Berger, quand même. Oui, c'est vraiment un homme d'affaires. Tout à fait. Bon, je ne demande pas son avis à Lénine, parce qu'il n'est plus là, le pauvre. Mais vous, Jean-Bernard Pouy, donc, vous êtes Yves Saint-Laurent, vous recevez...
Pas du tout. Ah bon, je suis Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste français.
Ah, c'est pas la même chose.
Et vous allez comprendre. C'est une lettre que donc je écris à Pierre Berger.
Par retour du
courrier. Monsieur Berger, vous parlez dans votre lettre des problèmes postaux au Maroc, mais ce n'est rien parce que j'ai reçu 40 ans après une lettre destinée à un homonyme, l'un de vos amis qui paraît-il est dans la fringue. Mais je veux bien donner mon avis sur le problème qui vous est posé, la casquette à Lénine. Ce qui me pèse un peu, car des casquettes depuis le temps. On lui en a posé un paquet sur sa pauvre tête et qu'il a fallu qu'on le préserve de cette avalanche de couvre-chefs en le confinant dans un mausolée où, justement, la guêpette, celle du travailleur, de l'ouvrier, ferait mauvais genre. Cela dit, la casquette revient. Plutôt de forme allégée, façon baseball. La visière ne se porte plus devant, mais derrière, ou bien sur les côtés. C'est ainsi pratique pour signifier si l'on est de gauche ou de droite. Vous allez me dire, ça dépend d'où on la regarde, certes. Mais aujourd'hui, retourner sa veste, c'est très compliqué. Alors que la casquette, c'est facile et rapide. Le seul truc à changer, ce sont les inscriptions. Genre New York City ou Chicago Bulls. Alors, il suffit d'imprimer quelques casquettes. au nom de I Love MT. MT, c'est Maurice Thorez. I Love Maurice Thorez. Ou Krasuki Forever. Ou Segi is the best. Ça fera un effet bison. Je vous remercie, cher Père Berger, vous qui êtes resté de gauche, malgré les tsunamis en marche, de ne pas m'avoir écrit, il y a plus de 40 ans. Mais de recevoir, maintenant, j'espère, ma réponse. Espérez. Espérez toujours. Un jour ou l'autre, le bolchevisme l'emportera. Et même si, ça m'étonnerait de vous, vous passez l'arme à gauche, sans le moins, je ferai en sorte que vous soyez, vous aussi, embaumés. Place du colonel Fabien, et pour l'éternité, encadré de merveilleux jacarandas. Signé Pierre Laure.
C'est une belle lettre aussi. Hein. Cet échange entre les trois est un peu surnaturel. Mais il y a
je
du
crois
potentiel.
Que Cécile Saint-Laurent a reçu un courrier aussi. Hein.
Seigneur, tu as mis au monde de beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'ils ne pouvaient pas être pauvres, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal irait-il si j'avais une petite, petite fortune? Ой, если же ты решишь, тяги да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ой, если же ты тяги-тяги решишь, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Эй, адио ла шаретте, тяги да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ту ли жур же тяги-тяги решишь, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- dire en vrai palais jusqu'au ciel sur la place de marché. De murs plantés viendra sur son toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout de voile pour entrer, l'autre pour sortir, et encore un troisième pour la joie. Et plein de ma cour de savates, coques de poule, toute la ville m'enverrait, car sa pillaille et sa sac à très doré. Et chaque fois, son récord, mon récle d'éclaira, regarde tous, à demeurer ma maison.
Ah, si j'étais riche, par les cœurs de l'armée rouge.
Les Papous, c'est dans toutes les têtes et sur France Culture.
Absolument, Jacques. Et maintenant, Clémentine Mélois écrit. Et quand Clémentine écrit, les propos cogne, malgré sa petite voix douce, mi-charmeuse, mi-acidulée. La révolution russe à l'école, vue par Clémentine Mélois. Alors, qui êtes-vous, Clémentine ?
Je suis Joséphine Bocquillon, en 3e C, au collège Max Dussuchel de Villers-Cotterêts.
D'accord. Et c'est un devoir que vous avez rendu ?
Non, pas précisément. J'ai écrit une lettre de réclamation à mon professeur d'histoire-géographie, Monsieur Pedou.
Oui.
Collège Max Dussuchel de Villers-Cotterêts, le 12 Fructidor. Cher Monsieur Pedou, ce lundi matin, premier jour de la semaine 3 du semestre 8 de notre calendrier scolaire, entre le cours de mathématiques de Monsieur Chaminade et le cours d'anglais de Madame Toeba, vous nous avez rendu les copies de l'interrogation écrite ayant pour sujet la révolution russe, pour laquelle vous avez jugé bon de m'octroyer la note de 8 sur 20.
C'est pas mal. C'est pour et mieux faire, mais enfin, il y a déjà une petite base avec 8.
Veuillez prendre acte du fait que je conteste cette notation et considérer le présent courrier comme une requête officielle en révision de cette évaluation. Je suis toute prête, cher Monsieur Pedou, à vous accorder le bénéfice du doute. Sachez néanmoins que le qualificatif d'erreur judiciaire a été à deux doigts de franchir mes lèvres lorsque j'ai découvert cette note bien en dessous de la moyenne et bien en deçà de mes espérances. Ce rouge, Monsieur Pedou, ce rouge bolchévique de votre stylo, si bien en accord avec le thème, je vous le concède, ce rouge barrant la copie d'un 8 tournant à l'infini comme un hamster dans sa cage. Quel choc, quelle indignité, quelle iniquité. Entendons-nous bien, votre système de notation n'est pas en cause. Vous enlevez un point par imprécision, soit. Les dates que j'ai données dans ma copie vous semblent inexactes, je peux comprendre votre méprise. J'ai situé la révolution de février en mars, celle d'octobre en novembre. Souvenez-vous de ce que dit le chapelier fou dans Alice au pays des merveilles. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, tu ne parlerais pas de le perdre. Le temps est un être vivant. Cette citation est on ne peut plus juste et illustre parfaitement le cas d'erreur judiciaire qui nous occupe et me préoccupe. Tout est une question de point de vue, tout est relatif. Bergson ne parle-t-il pas de durée objective et de durée relative? Je l'expérimente à chacun de vos cours, quand 10 minutes à peine semblent durer des heures. Mais là n'est pas le sujet. Ces imprécisions supposées dans les dates sont évidemment dues au fait que nous ne nous référons pas au même calendrier. Ce n'est qu'un détail. Vous n'avez d'ailleurs à aucun moment précisé à quel calendrier il fallait se référer. Le julien, le grégorien, le perse, le positiviste, le romain. En Russie, en 1917, c'est le calendrier julien qui était encore en cours. Je ne vous l'apprends pas. Ainsi, la révolution de février a en fait eu lieu en mars, selon le calendrier grégorien, celle d'octobre en novembre. Année 1335 du calendrier musulman, par ailleurs placée sous le signe du serpent selon le calendrier chinois. Révolution de février, de mars, d'octobre, de novembre, de Ventose ou de Brumaire, tout cela n'est qu'une question de formulation. Vous en conviendrez. Merci de bien vouloir accuser réception de ce courrier et de faire figurer dans le tableau d'évaluation la note de 15 sur 20 qui m'échoit légitimement. Nul homme n'est à l'abri d'une bévue, cher monsieur Pedoux. Aussi, sachez que je ne vous en veux pas. Veillez cependant à ce que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments républicains. Joséphine Bocquillon, 3e C. Post-scriptum, permettez-moi d'ajouter que j'ai obtenu gain de cause le mois dernier auprès de monsieur Chaminade, votre collègue de mathématiques, qui m'avait enlevé des points pour une bête histoire de système métrique et de confusion de pieds, de pouces et de centimètres.
Elle est procédurière, hein, Joséphine, dites donc. Mais elle a un bon niveau, quand oui, même, pour une élève de 3e.
Troisième, elle écrit très, très bien. J'ai
une super moyenne. Enfin,
elle a 24 ans et demi. Hein.
Oui, c'est ça. Elle a refait sa troisième une dizaine de fois.
J'ai redoublé pour des raisons scandaleuses.
Son charme fait fondre les profs.
Bah, oui, je ne sais pas si c'est son charme
les
ou
vieux
ses menaces.
Hein.
Moi, je voudrais pas être monsieur Pedou, quand même, parce que... Pedou.
Elle va vous faire un procès, Françoise. Son nom.
Alors, bon, Jacques Vallée, vous avez dans votre classe des gens brillants, comme, comme cette Joséphine. Est-ce que vous allez lui remonter sa note? Vous vous laissez influencer ou pas?
Ben, plutôt...
C'est
tout à fait logique.
Vous êtes un prof qui se couche.
Non, c'est pas tout à fait, mais enfin...
On va voir.
Chère Joséphine, permettez-moi de vous appeler par votre prénom, il est si joli. Je reconnais que...
Vous êtes chassé de l'éducation nationale.
Ah oui,
non,
là,
mais attends une seconde. Je reconnais que j'ai très mal jugé votre remarquable devoir sur la révolution russe. Je suis navré, je me confonds en excuses, je m'incline. J'ai noté un peu rapidement les copies de la classe selon un système qui a fait ses preuves et sans vraiment regarder leur auteur. En réalité, je procède à une sorte de tirage au sort que je note de 1 à 20 selon la sortie des copies. La vôtre est sortie en 8e position, vous aviez donc 8. Cependant, à la réception de votre lettre, j'ai pris conscience de mon impardonnable erreur. Vous êtes la célèbre Joséphine Bacquillon, qui le mois dernier, après une intervention auprès de mon collègue Chaminade, avait obtenu que votre note passe de 5 à 15. Le mois précédent, après une protestation de vos parents, la mauvaise note que vous avez d'abord donnée le professeur de français a été aussitôt réévaluée. Vous avez également obtenu, au cours du trimestre précédent, des rectificatifs à vos notes médiocres en anglais, en sciences, en gym, en chant, en russe...
Ouais.
Je pense que votre charme n'est pas étranger à la chose et je sais que monsieur le directeur n'y est pas totalement insensible car il accepte les yeux fermés cette perpétuelle réévaluation de vos performances par le corps enseignant. Je me range donc à ses consignes et après lui avoir signalé notre différend et après une intervention de l'inspecteur d'académie, j'ai doublé votre note. Cependant, sachez... Je serai, en tant que professeur principal, la personne qui jugera de l'obtention de votre diplôme en fin d'année. Je vous donne rendez-vous à l'oral, qui ne supporte aucune contestation. Bien à vous, chère Joséphine, et c'est signé Joseph Bédou.
Donc les parents ont le bras très long, hein, les parents de Joséphine, je suppose.
Ben, des parents maintenant interviennent beaucoup dans les...
Ah oui, non mais à ce point, auprès de tous les professeurs, et avec un tel succès, c'est au moins la fille d'un... Ministre, je ne sais pas. Non.
Je sais pas, c'est secret tout ça.
Ah oui.
C'est peut-être elle qui couche.
Moi, je n'ai pas dit que vous couchiez, j'ai dit
non,
que vous étiez couché.
Je me défends.
Qu'est-ce qu'il en pense, Lucas Fournier, en tant que parent d'élève en activité encore?
Justement, ça a été le thème de la dernière réunion des parents d'élèves. Et donc, nous avons proposé une motion que toutes les notes soient réévaluées de 50%, tout état de cause pour tout le monde.
Bah, voilà qui voilà. est juste. C'est très bien, aussi bien les garçons que les filles.
Quoi. Oui, donc maintenant on est noté sur 30.
Et si on s'intéressait à la révolution dans tous les sens du mot? C'est le moment du petit Rimailleur illustré avec Jacques Vallée qui nous dira tout sur ce mot, mais à sa façon et avec son approche poétique. Alexandrin à la mode romantique, Jacques, des quatre-syllabes ou autre forme, quel est votre choix?
Des quintines, j'avais jamais fait ça, donc j'ai essayé de faire des quintines.
C'est révolutionnaire, dites-moi.
C'est une excellente idée.
De vous dire, je m'empresse. Quand il s'agit de rotation d'astres, de temps et de vitesse, d'orbite, de gravitation, on salue les révolutions. Je m'empresse de vous dire, dans mon esprit, pas d'inflexion. Je ne veux pas me contredire. Je ne change pas d'opinion, il n'y a pas de révolution. Mais acceptez cette évidence. L'époque est en agitation, le monde est en effervescence, les mœurs sont en ébullition, cachée vient la révolution. Je trouve en effet que tout change. On balance les traditions, il y a des cataclysmes étranges, la nature a des convulsions, profonde est la révolution. Les saisons possèdent leur cycle, les forêts leur exploitation. L'objet autour d'un axe gicle, la courbe fait sa rotation, l'escalier sa révolution. Vous voyez, j'ai bonne mémoire, j'en arrive aux insurrections.
Mais...
faut-il revisiter l'histoire, ces émeutes, ces rébellions, l'épopée des révolutions? Je vous jette alors à la tête les grands mouvements des nations. 89 et ses conquêtes, la Bastille, la Convention, modèle des révolutions. Puis un tas de guerres civiles, toutes sortes de convulsions, avec les trônes qui vacillent, les peuples en ébullition, violente est la révolution. Mentionnant enfin la Russie, ses défuntes aspirations dont on peut faire l'autopsie, puis les nombreuses réactions, mystère des révolutions. Un mot encore pour que s'achève cette courte célébration. Le terme commence par rêve, puis tout tient dans l'évolution entre rêve et révolution.
Ah, c'est joli, ah, ça, oh là,
oh là, là.
Il est en forme, Jacques Vallée, oui.
On dirait du Aragon.
Alors, est-ce qu'on aurait des vraies fausses citations à lancer comme ça? Qui en a une, Jean-Bernard Puy, je le sens.
Il y en a une que m'a confiée Lucas Fournier, parce qu'elle est de lui. Donc il est trop pusillanime pour la dire lui-même. Quand on va chez le dentiste, c'est une révolution de palais.
Ah.
Oui, elle est belle.
Très bien. Et je crois que Lucas Fournier en a une vraie.
Oui, une vraie de Salvador Dali. Ouais. La révolution russe, c'est la révolution française retardée à cause du gel.
Les papous, c'est dans la tête. Et sur France Culture, le samedi soir. Au micro, François Stressart et la bande des papous de ce jour spécial révolution russe. À suivre la découverte d'un document qui devrait bouleverser le monde du cinéma. Et le DLA pour un piège littéraire révolutionnaire. Proposé par Jacques Vallée aux experts Patrick Beignet, Jacques Jouet et Jean-Bernard Puy. Donc le document inédit, dégoté, inventé par Patrick Beignet. Il n'est pas qu'expert au DLA, Patrick c'est aussi un dénicheur de trésors. De quoi s'agit-il Patrick et qui est concerné?
C'est une lettre de Fernandel à Greta Garbo.
Ah oui.
Qui date de 1939.
Oui.
Mademoiselle, connaissez-vous mon nom? Je n'en suis pas certain car, en dépit du grand succès de beaucoup de mes films en France, ma réputation n'est pas parvenue à Hollywood où vous régnez. Aussi dois-je me présenter avant d'expliquer l'objet de ma lettre. Sous le nom de Fernandel, je suis une grande vedette comique de la chanson et du cinéma. Tout le monde sait ici que je suis né en 1903 à Marseille, mais j'ai un secret que je vous livre. Si je suis bien né en 1903, ce n'est pas à Marseille, mais à Saint-Pétersbourg. Oh. Mon père, Alexei Fernandelov, était un nihiliste lanceur de bombes qui luttait pour abattre le régime tsariste. En 1913, il a été arrêté par la police de Nicolas II quand il parvint à s'enfuir avec sa femme et son enfant âgé de 10 ans. C'était moi. Après diverses pérégrinations, nous arrivâmes à Marseille où j'ai grandi. Abrégeant en Fernandel le nom de Fernandelov, déguisant mon incurable accent russe sous une vague couleur provençale, j'ai assez vite réussi une carrière de comique, mais sans jamais renier les idéaux révolutionnaires de mon père. Mon seul but est de faire triompher la grande révolution prolétarienne sous l'égide du camarade Staline. La semaine dernière, j'ai vu votre nouveau film « Ninotchka ». Il a créé des liens entre vous et moi. D'abord, vous riez. C'est même le slogan publicitaire du film. Garbo rit. Et ça nous change de vos dames aux camélias et autres reines Christine. En outre, Ninotchka est une jeune et séduisante bolchevique qui a parfaitement compris l'esprit d'octobre 17. Je vous ai immédiatement admiré dans ce rôle, chère mademoiselle Garbo. Bien sûr, la logique capitaliste hollywoodienne et ses scénaristes stipendiés forcent Ninotchka à renier son idéal soviétique, à se laisser séduire par Paris, le luxe et l'argent. Sur l'écran, Ninotchka rit. Moi, je pleurais dans la salle. Pourtant, j'ai vite senti que vous riez à contre-cœur à la parodie qu'on vous faisait jouer. Quelque chose me disait que vous étiez au fond triste de bafouer l'idéal de notre grand Staline. Alors, j'ai reconnu une sœur en vous, camarade Garbo. Aussi, je vous invite à venir ici, à Marseille. Avec les bénéfices considérables de mon nouveau film, Raphaël le Tatoué, je veux que nous jouions ensemble un contre-Ninotchka qui vous rendra l'honneur et la grandeur, loin de la gaudriole bourgeoise. Venez, camarade Garbo, je vous attends.
C'est une très belle lettre, et puis il nous dévoile un pan d'histoire cinématographique. Vous étiez au courant pour Fernandelov, Lucas ?
Mais c'est à Marseille, c'est très connu. Hein.
Ah bon ?
Ah oui, c'est un secret de Polichinelle, enfin pas de Polichinelle, de Rasputin, mais je ne sais pas comment on doit dire. Ah, ah oui, oui, tout Marseille le sait, là.
Ah bon ?
Ouais, oui.
Ah, écoutez, il y a au moins une personne ici parmi nous, en dehors de moi, qui pourrait jouer le rôle de Greta Garbo, c'est Clémentine Mélois.
Je pense que je suis toute désignée.
Oui.
Greta répond à Fernandel, Fernandelov,
Alexei
Fernandelov. Alors il faut imaginer que je sois Greta Garbo.
Avec une voix très grave.
Peut-être prendre une voix plus grave.
Oui.
Cher Alexei, vous me demandez si je connais votre nom. Sachez que j'ai vu chacun de vos films et que je vous aime autant que je vous admire. Mon cœur résonne encore de l'émotion que m'a procurée la lecture de votre lettre. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en voulant bien faire de moi la confidente de votre secret. Ainsi donc, vous êtes russe. Maintenant que vous me le dites, il y a un moment que je trouvais que votre accent manquait de naturel.
Ah.
Pour en venir à l'objet de votre courrier, votre proposition tombe à point nommé. J'y vois comme un signe du destin. Le moment est venu pour moi de tourner la page et vous allez m'y aider. Vous serez la cheville ouvrière de mon vaste projet. Je veux jouer dans une comédie, Alexei. Ce que vous m'offrez, j'en rêve depuis longtemps. Montons ensemble un duo comique. Je serai la vache, vous serez le prisonnier. J'ai en tête 1000 scénarios pleins de fantaisie et de burlesque. Oh, nous rirons, le public rira avec nous. Au diable, la Greta Garbo de jadis, fière et figée. Je veux faire des clowneries. Il faudra m'apprendre. J'ai encore beaucoup de progrès à faire dans le registre qu'on m'interdit depuis toujours. Rencontrons-nous dès que possible pour en discuter autour d'une bouillabaisse, d'un bœuf stroganoff ou de toute autre spécialité qui vous conviendra. Ensemble, nous conquérons le monde. Recevez mes chaleureuses salutations. Votre Greta.
C'est une bonne idée, elle, dans le rôle de la vache et vous dans oui, les prisonniers.
Le contraire aurait été possible aussi.
Non, mais... Ah oui, c'était envisageable,
mais,
oui.
Mais c'est extrêmement émouvant parce qu'il faut se souvenir que c'est une lettre qui date de 1939.
Oui.
Et donc, elle n'a quasiment plus tourné, sauf un film.
Oui, oui. Donc, en fait, tout porte à croire que Fernandel ne lui a jamais répondu. Il ne lui a pas proposé le rôle de la vache.
Non, puisque... la lettre est arrivée à Zaza Gabor, ils se sont trompés.
Земля остила, и чутно наухлились дома. Это of goro dieci plu i siro, et of goro dieci plu i siro, a za goro dom zima, zima, zima. Уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь, февраль. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь, февраль. Раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Остыли реки и земля остыла, но я морозу не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль.
Jeanne Carignan et Vadim Cher en duo, enregistré en public au studio 105 pour nos papous dans la tête, la saison dernière. Dernière séquence de ce numéro des papous dans la tête sur France Culture, le DLA spécial pour ce numéro des papous, Révolution russe. Alors j'ai demandé à Jacques Vallée de chercher un texte qui serait bien dans l'humeur du jour de France Culture et il a trouvé, il est très fort Jacques Vallée, il connaît beaucoup de choses en matière de littérature. Il a déniché une vingtaine de lignes d'un auteur connu, lignes qu'il va nous lire sans rien nous révéler de son auteur puisque tel est le jeu du DLA et la question qu'il pose, qui a bien pu écrire cela ? Et avec des arguments littéraires, s'il vous plaît, messieurs les experts, Patrick Beignet, Jacques Jouet et Jean-Bernard Pouy. Évidemment, en seconde chance et comme d'habitude, Jacques Vallée vous offrira un choix entre trois auteurs dont il a déjà écrit les noms sur une feuille de papier. Allez, c'est parti pour le DLA. Vous lisez, Jacques Vallée. On vous écoute tous attentivement.
Nous agîmes tout le long du Transsibérien et pénétrâmes lentement en Russie d'Europe. Nous procédions partout de la même façon. Nous lancions des convocations aux comités locaux, puis apparissions soudainement dans des files voisines où l'on ne nous attendait pas, au milieu d'assemblées que notre venue sidérait. Afin de conserver un semblant de légalité aux yeux de nos derniers partisans, nous nous érigions en tribunal révolutionnaire. Tous ceux qui, durant ces dernières années, avaient pris une part directe ou indirecte à notre organisation, comparaissaient devant nous. Nous condamnions froidement à mort tous ceux qui, de près ou de loin, étaient entrés en pourparlers avec la police. Tous ceux qui nous paraissaient avoir flanché, tous les délateurs, les tiédis, les fatigués, les embourgeoisés, nous étions impitoyables. Il n'y avait qu'une seule sentence, la mort. Nous exécutions de notre propre chef et sans aucun jugement préalable tous les membres influents des comités provinciaux sur lesquels nous n'étions plus très sûrs de pouvoir compter et qui, par leur situation et par ce qu'ils savaient de notre organisation, auraient pu devenir dangereux. Nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres ou
nous nous en servions pour compromettre certains militants insaisissables que nous désirions voir disparaître. Quand on a pris ces châtiments exemplaires, ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire.
Eh ben, c'est pas rigolo, la révolution, Patrick Beignet.
Oui, c'est pas rigolo.
Oui, non, mais c'est mais... vrai, je plaisante pas du tout, oui, là. Oui. Donc, quelle est votre première impression, comme ça?
Ma première impression, c'est de penser que c'est rigolo.
Ah bon? Ah.
Oui, enfin, pour ne pas avoir d'inquiétude sur la santé mentale de Jacques.
Oui.
Je préfère penser qu'il y a une dimension parodique dans ce texte. Ça, c'est irrespirable.
Mais oui. Oui.
Et voilà, je m'en tire comme ça pour le moment.
Comment sentir Jacques Jouet ?
Oui, je partage assez cette opinion. Finalement, c'est probablement issu d'un texte assez burlesque.
Ah oui, juste avant et juste après, quoi.
Oui.
Dit-il d'un air absolument catastrophé.
Non, mais je dirais...
un anti-révolutionnaire qui a écrit ça et qui se met dans une situation étrange, puisque c'est le... Les personnages ont l'impression qu'ils arrivent de l'Est. Hein. Oui. Donc d'où arrivent-ils? Je ne sais pas, du pays du diable.
Ah, étayez votre théorie, Patrick.
Non, je voulais dire, répondre, vous disiez, c'est burlesque juste avant
oui.
et juste après.
Oui.
Mais il faut aussi comprendre que c'est burlesque là, pendant.
Pendant, oui.
Non, mais ça n'a pas de sens.
C'est juste que c'est moins perceptible si on n'a pas le contexte.
Voilà, mais il faut inventer le contexte.
Absolument.
Je suis ce qu'on appelle un expert, et
oui.
expert en particulier dans l'invention du contexte. Oui, ça ils viennent de l'Orient le plus profond.
Oui.
Et bon, essayer d'étayer cette thèse.
Oui.
À toute vitesse, comme nous travaillons ici, mais je dirais, par exemple, la rupture du... Il paraissait avoir flanché. Là, ça, oui. le terme n'est pas dans le même registre que le reste, c'est plus familier.
Oui.
Je suis étonné aussi par les tiédis. Mais là, ça pose aussi la question de la langue dans laquelle ça a été écrit.
Il y a beaucoup de tiédis, c'est
non,
ça
enfin, le terme arrive au milieu du texte. Il paraissait avoir flanché tous les déateurs, les tiédis.
Les tiédis, bon, les fatigués, les embourgeoisés, oui.
Enfin, les moi, tiédis, si je suis un être rationnel, j'attendrais plutôt les tièdes. Mais effectivement, les tiédis,
les
c'est
tiédis,
autre chose.
Oui, c'est intéressant.
Voilà. Bon, ce sont les moments où le sérieux de la démonstration ou de l'évocation révolutionnaire flanche un peu,
d'accord.
justement, peut-être.
D'accord. Alors, Jean-Bernard Puy, vous êtes le troisième expert. Hein, vous êtes d'accord avec Patrick Beignet, Jacques
Jouet.
Oui,
mais c'est pas parce que j'ai lu quand même pas mal de romans russes.
Oui.
Notamment des romans noirs qui sont au premier degré et qui racontent exactement à peu près les mêmes choses.
Mmh.
Au temps de Beria, par exemple. Que, et c'est pas du tout burlesque, c'est qu'ils disent que c'était normal, c'est ça la Russie, c'est ça la Grande Russie. Alors je suis un peu perplexe. Mais cela dit, ces auteurs sont pas suffisamment connus pour arriver jusqu'à France Culture, donc je pense au frère Weiler ou des gens comme ça. Mais il y a un texte aussi de Simenon qui ressemble un peu à ça, hein, Légende en face. Il y a des instants dans ce récit qui peuvent penser à ça. Parce que
c'est un peu tôt pour amener des noms.
Non, mais je dis pas que c'est si pour.
C'est une parenté.
Mais
quoi.
Parce qu'il y a des petites imperfections quand même. Nous agîmes tout le long du Transsibérien. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est une phrase qui est en accord avec le reste.
Bon, donc ce serait peut-être traduit, Jacques Jouet.
Oui, peut-être, mais pas.
Non, il ne se mouillera pas plus que ça. Ben, vous sentez l'écriture directe en français? C'est une question qu'on peut se poser par rapport à un texte qui nous est présenté anonymement.
Moi, je ne sens pas ces trucs-là, moi.
Ah bon, jamais? Donc après, vous vous dites, tiens, je vais nommer un auteur français ou américain ou au petit bonheur?
Non, si c'est bien traduit, c'est du français, c'est pas grave.
Non, ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire, c'est pas une phrase qui peut être écrite dans un roman russe. Ça me paraît.
En russe, ça se dit pas comme ça. Ça, c'est sûr.
Oui, bien évidemment. Mais ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire. On a l'impression, là, ça rejoint ce que disait Patrick tout à l'heure. Un genre du burlesque latent, quand même.
Ouais.
C'est drôle parce qu'il y a une affectation de radicalisme plus radical que celui des révolutionnaires. Donc, c'est ça qui est assez drôle.
Ouais.
Avec ce groupe qui dit ce nous, le groupe. À une espèce de présence pleine de... ils sont capables d'ubiquité, visiblement, au début. Hein. On apparaît dans les villes voisines, là où on ne nous attend pas. On a, on a un peu des super-pouvoirs par rapport à, justement à ce que, aux révolutionnaires qui considèrent avoir les super-pouvoirs. Ouais. Donc je pense que oui, ce n'est pas du récit réaliste, enfin, c'est du, de l'imaginaire.
Bon, je sais bien que c'est très daté au niveau de ce que ça raconte, mais est-ce que ça a été écrit, Patrick Beignet, juste à l'époque, ou est-ce que c'est raconté bien après ?
J'ose espérer que ça date d'une époque déjà un peu lointaine, que personne ne fait l'effort d'écrire des choses pareilles aujourd'hui, ou alors vraiment pour imiter, enfin,
pas forcément de
oui, pas forcément de parodie, mais par la nécessité d'une entreprise littéraire d'arracher quelque chose qui ressemble à une littérature de l'entre-deux-guerres, disons. Donc, je pense que c'est en cela, c'est daté.
D'accord. Et pour vous, c'est écrit directement en français?
J'aurais tendance à le penser aussi. Je suis un peu la même école que Jacques Jouet sur ce plan. Oui, mais en tout cas, si c'est traduit, c'est très bien traduit. C'est vraiment assez fondu.
Oui, mais il y a des très bons traducteurs.
Oui, mais ils sont plus rares que vous ne semblez le penser quelquefois.
Je ne sais pas. C'est une profession que je défends.
Oui, oui, oui.
Parce que je trouve que sans les traducteurs, il y a des millions, des milliards de livres qu'on n'aurait jamais pu lire. Bon, alors, progressons un petit peu avec vous, Jean-Bernard.
Alors, moi, il y a une question que je me pose quand même. C'est, on ne sait pas de qui s'agit, vraiment. Parce que ça pourrait être des militants de l'armée blanche. Ça serait normal qu'ils passent de l'Est à l'Ouest. Oui. Il n'y a que le mot tribunal révolutionnaire qui peut faire penser que ce sont des rouges qui, au contraire... Bon. Mais les armées blanches de Wrangel, Denikin, ils s'érigeaient également au tribunal révolutionnaire. Le mot tribunal révolutionnaire, c'est pas lié à la révolution, c'est lié à la fonction. Donc, on sait pas trop de qui il s'agit.
Ouais, c'est vrai.
Donc, à un moment donné, quand même, les choses ont été en balance un peu. Heureusement, grâce à Macnaud, la révolution rouge a gagné. Mais... c'est pas non plus un texte d'anarchiste, je crois pas non plus. Quoique, les assemblées que notre venue sidérait, c'est sujet à caution, dans le sens où on sait pas qu'est-ce qui peut les sidérer, à part des cosaques déguisés en couverts de peau de bête qui arrivent tout d'un coup dans un endroit où il n'y a pas de bête. Donc, on sait pas trop. C'est ça qui est un peu étrange. C'est pour ça que ce texte est un peu abstrait, je trouve.
Oui, mais ce qu'il aura. Étrange, c'est aussi le contraste entre le. Il y a un côté presque délirant. Enfin, c'est, ça pourrait être fantomas d'une certaine façon. Cet ordre. Mais l'écriture est d'une rigueur absolue, il me semble. Donc, c'est écrit de façon très claire, très rigoureuse. Les phrases me paraissent plutôt brèves. Donc, c'est pas le style non plus de. C'est pas Souvestre et Alain, disons, pour ne pas citer
encore
de nom.
Ah non, oui, d'accord.
Donc, c'est ce contrôle qui est. Moi, qui me gêne le
qui
plus.
Qui perturbe un petit
voilà,
peu.
Voilà, c'est ça.
Et qui rend l'expertise très difficile. On réécouterait très volontiers ce texte, Jacques. Peut-être animez-le d'un sourire pour qu'on ait une autre lecture. Vous avez tous dit que c'était burlesque, alors.
Ben oui. Nous agîmes tout le long du Transsibérien et pénétrâmes lentement en Russie d'Europe. Nous procédions partout de la même façon. Nous lancions des convocations aux comités locaux, puis apparaissions soudainement dans des villes voisines où l'on ne nous attendait pas, au milieu d'assemblées que notre venue sidérait. Afin de conserver un semblant de légalité aux yeux de nos derniers partisans, nous nous érigions en tribunal révolutionnaire. Tous ceux qui, durant ces dernières années, avaient pris une part directe ou indirecte à notre organisation, comparaissaient devant nous. Nous condamnions froidement à mort tous ceux qui, de près ou de loin, étaient entrés en pourparlers avec la police, tous ceux qui nous paraissaient avoir flanché, tous les délateurs, les tiédis, les fatigués, les embourgeoisés. Nous étions impitoyables. Il n'y avait qu'une seule sentence, la mort. Nous exécutions de notre propre chef et sans aucun jugement préalable tous les membres influents des comités provinciaux sur lesquels nous n'étions plus très sûrs de pouvoir compter et qui, par leur situation et par ce qu'ils savaient de notre organisation, auraient pu devenir dangereux. Nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres ou nous nous en servions pour compromettre certains militants insaisissables que nous désirions voir disparaître. Quand on apprit ces châtiments exemplaires, ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire.
Est-ce que c'est une femme qui pourrait avoir écrit ça, Patrick Beignet?
Tout oui. est possible, oui, oui.
Oui, rien ne l'empêche.
Rien ne l'empêche, non. Hein? Le nous dissimule beaucoup de choses.
Jean-Bernard, vous n'êtes pas d'accord. Non, pourquoi?
Bon, parce que je me suicide, sinon. Non, parce qu'il n'y a pas de petits sentiments qui passent, il n'y a rien. Enfin, donc,
Ah, vous savez, il y a des femmes qui ne sont pas des sentimentales. Hein.
En général, si. Enfin, nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres. C'est assez bizarre, d'ailleurs, en plus. C'est rare quand on détruit des cadavres, on les enterre, ou nous en servions.
Chacun ses habitudes.
Pour compromettre certains militants. Je ne vois pas une femme imaginer quelque chose qui ressemble à ça.
Alors, est-ce que cette seconde lecture vous a fait progresser un petit peu, Jacques Jouy, vers un nom? Mais il n'y en aura pas de troisième.
Moi, ce qui m'a fait progresser, c'est la remarque de Patrick, qui a cité Souvestre Alain, enfin, qui a cité ses auteurs populaires. Du début du siècle, et c'est vrai qu'il y a de ça quand même. Bon, on a l'impression que c'est une grande saga. Mmh. Ça pourrait être tiré de Michel Strogoff, sauf que bon, c'est un peu vieux.
Oui.
Jules Verne.
Oui.
Je trouve que l'écriture est plus bête, l'écriture d'une certaine manière, elle est plus premier degré. C'est ça qui me perturbe le plus.
Plus bête que quoi, que Jules Verne?
Ah oui, Jules Verne, ça part de tous les côtés un peu. Mais là.
Oui, moi j'avais exclu au départ l'hypothèse dont parlait Jean-Bernard tout à l'heure, les armées blanches.
Oui.
En fait, c'est pas complètement impossible, mais du coup, ça donnerait un texte très sérieux. Alors, soit c'est un texte très sérieux et c'est un général de l'armée blanche qui parle, soit c'est un texte qui ne l'est pas du tout, qui est burlesque, soit c'est une autre hypothèse, et qui est peut-être étayée par cette étrange phrase « Nous exécutions de notre propre chef ». Oui. La présence du chef, là, qu'est-ce que c'est que ce « nous » et qu'est-ce que c'est que ce chef?
Alors, qu'est-ce que c'est que ce « nous » C'est la question que se posait Patrick Beignet tout à l'heure.
Comme deux autres experts.
Et on n'a pas réussi. Vous avez une petite idée, Lucas, puisque vous êtes avec nous pour ce spécial Révolution russe. C'est qui ce « nous »
Je me demandais si ça ne pouvait pas être tiré non plus d'une pièce de théâtre et d'un personnage qui faisait un récit de Théramène. De ses aventures antérieures.
Ah. Nous agîmes tout le long du transsibérien.
Oui, c'est ça. Très bien. Tu l'as. Ouais. Et ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire. Point.
Bon, c'est une idée.
C'est une idée.
Recevable.
Je pouvais mettre une autre idée, mais pour développer une idée déjà abordée. Sur le burlesque, je pense qu'il ne faut pas opposer dans un texte pareil le sérieux et le burlesque. C'est en ça que la lecture de Jacques était bien. C'est-à-dire que plus on le lit sérieusement, plus ça devient drôle.
Plus c'est drôle. C'est
Donc l'excès, c'est un excès de sérieux.
Alors vous savez qu'il va falloir dire un nom d'auteur pour ce texte. Est-ce que vous en avez une idée?
Moi j'en ai. Oui,
allez-y, Patrick.
Ma première idée, je l'écarte, mais je vous la donne quand même pour que vous voyez la progression de ma pensée. J'ai pensé au copain de Jules Romain.
Ah.
Je ne dois pas avoir jamais lu, mais enfin, c'est comme ça que j'imagine la farce, le canular poussé très loin. Je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'à ma connaissance, ça ne dépasse pas le département de... Je ne sais quel département.
Clermont-Ferrand.
Voilà.
Et Rion.
Ouais. Et Ambert.
Et au fond, s'il fallait dire un nom, je dirais que moi, ça me fait penser finalement à du Guy Debord. Alors, ce serait un roman de Guy Debord, un roman de jeunesse, disons, quelque chose comme ça. Dans la froideur et la façon de pousser à bout l'attitude terroriste.
Bah, c'est intéressant. Jean-Bernard Puy a l'air médusé.
Oui, non, moi, je...
Non, mais allez-y.
Non, comment il s'appelle, celui qui est mort, là?
Oh, bon, il y en a beaucoup.
Gérard de Villiers.
Gérard de Villiers aurait écrit ça?
Non, parce que je ne sais pas. Et je trouve ce texte atroce. Et
pas dans sa formulation, pas dans son
style. Si aussi.
Ah bon.
Nous étions impitoyables. Alors je pourrais dire Kessel, mais je vois pas où.
Mais pourquoi Gérard de Villiers, un argument pour?
Oh mais parce qu'il raconte des histoires comme ça, des histoires de révolution, d'anti-révolution.
Mais il y a des femmes.
Oui, mais on n'est pas encore arrivé au passage. C'est par passage. Il y a Air France. Il y a quand même une chose qui me perturbe, c'est que nous agîmes tout le long du Transsibérien. Je me souviens plus en quelle date il a été construit, le Transsibérien. Et nous pénétrâmes lentement en Russie d'Europe. Alors, la Russie d'Europe, j'ai l'impression que c'est daté un peu quand même. Dès la Révolution d'Octobre, la Russie, c'est jusqu'à Tamandracette. Non, pas Tamandracette.
Vladivostok.
Jusqu'à Vladivostok.
C'est pas la même chose.
Donc la Russie d'Europe, ça fait, on a l'impression que c'est un truc tsariste, quoi. Enfin,
ouais.
Bon,
gardez votre Gérard de Villiers. Moi, j'ai
rien
contre.
Non, mais c'est ça pour rigoler, parce que je ne sais pas quoi dire.
Non, c'est bien, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Bon, assumez, alors, Jean-Bernard Pouy. Assumez.
Non,
vous aurez, j'assume
pas. Non.
Vous aurez un deuxième tour. Jacques Jouet.
Non, moi je crois que l'auteur est un écrivain ironiste russe des années 30,
oui,
qui aura bientôt de très très lourds problèmes avec Staline.
Ah oui.
Et par exemple, je dirais que ça pourrait très bien être une équipe diabolique qu'on trouve dans Bulgakov, par exemple.
Ah. Alors, Patrick Beignet propose Guy Debord. Choix audacieux, mais pourquoi pas. Jean-Bernard Pouy, Gérard de Villiers, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, c'est sorti.
Ça se pourrait.
Et cet homme est très sympathique, je parle de Jean-Bernard Pouy. Jacques Jouet, ma foi, un petit Bulgakov.
Derrière les fagots.
Ouais, bien senti. Alors, y a-t-il un de ces noms dans votre liste de trois, Jacques Vallée?
Il y a un nom.
Waouh, lequel?
Mikhaïl Bulgakov.
Ouais. Le nom trouvé par Jacques Jouet. Donc nous avons un Bulgakov, ensuite...
Ensuite il y a Blaise Cendrars, ouais, et ensuite il y a Léon Trotsky.
Et Léon Trotsky. Bon, désolé pour De Villiers, hein, Jean-Bernard Pouy.
Mais alors l'équivalent de Villiers, c'est-à-dire Trotsky.
Trotsky, et un Trotsky pour Jean-Bernard Pouy. Patrick Beignet.
Mais moi, j'ai resté du côté français. Je ne voulais pas penser à Cendrars parce que c'était le transsibérien. C'était
oui, on y pensait
évidemment
tout de suite,
un piège,
donc c'est un piège.
Mais au point où nous en sommes, je pense que Jacques Vallée, il ne pouvait pas changer sa liste. Mais enfin,
il nous aurait mis Blaise Cendrars, voilà, le transsibérien.
Oui, mais évidemment pas la prose
pas
du
masqué,
transsibérien.
Oui,
mais
bien sûr.
Il a écrit
d'autres
choses.
Un Blaise Cendrars pour Patrick Beignet. Et Jacques Jouet, alors, vous aviez nommé Bulgakov, vous le gardez?
À votre avis.
Oh, bah, il va le garder.
Bah oui.
Donc Jacques Jouet assume son Bulgakov du premier tour. Alors,
il y a un gagnant.
Ah, le mystère est encore total.
C'est pour ça qu'il faut le garder.
Oui.
Et c'est Patrick Beignet qui a eu raison et qui a deviné tout de suite le côté de... C'est Blaise Cendrars, Moravagine. Ce roman qui date de 1926 et où Jean-Bernard Pouy n'est pas loin parce que c'est un roman anarchisant. Le narrateur est un jeune médecin spécialiste des troubles nerveux qui rencontre Moravagine dans une clinique psychiatrique en Suisse. Moravagine est le dernier descendant d'une grande famille de la noblesse autrichienne. Et c'est un fou dangereux, interné pour homicide, un malade incurable. Mmh. Et le médecin se prend d'amitié pour ce grand fauve humain, comme il l'appelle. Il est fasciné par sa personnalité attachante, son intelligence diabolique. Et il va le faire évader, il parcourt le monde avec lui. Et ils vont vivre ainsi des aventures rocambolesques, d'une vie chaotique, sanglante à travers le monde. L'Allemagne, la Russie, c'est là qu'ils se mêlent aux révolutionnaires. Après, ils vont aux États-Unis, ils vont en Amérique du Sud. Et ce personnage qui a longtemps occupé Cendrars, et qui reste, Cendrars reste, c'est 26, il reste très marqué par la guerre de 14 où il a perdu son bras. Mmh. Et ce personnage pourrait être son double noir qu'il semble exorciser. Mais c'est un roman anarchisant, quoi.
Patrick Beignet, mais bravo, bravissime.
Vous n'avez pas l'air étonné.
Ah, mais la victoire à ce jeu me bluffe toujours. Les papous font leur révolution russe. C'est fini. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Pour l'amitié virtuelle mais chaleureuse, direction la page Facebook des papous. Et nous, on se retrouve samedi prochain de 20h à 22h. Pour les papous sont très sport. Enregistré en public hier soir à la Maison de la Radio. Au revoir, passez une très belle fin de soirée sur France Culture.
Quoi?